Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Cette demande du collectif Handicap après l'élection présidentielle en France, il souhaite notamment que le futur gouvernement comprenne un ministère de l'autonomie et des solidarités de plein exercice. Nous écouterons le coordinateur du collectif Handicap, Stéphane Lenoir. Ce drame en mer Méditerranée, au moins 17 migrants sont morts dans le naufrage de 4 embarcations devant les côtes du centre-est de la Tunisie. Le président tunisien s'arroge la prérogative de choisir et nommer les 7 membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Son président, Nabil Bafoun, réagit au micro de Radio Orient. Nabil Bafoun, pour qui on a enterré l'indépendance de l'Isis, il sera l'un de nos invités. Un Palestinien blessé par balle à l'aube par les forces israéliennes dans le sud de la Cisjordanie occupée a succombé à ses blessures, une annonce du ministère palestinien de la Santé. L'invité de Pluriel à 19h est Dienaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régionale d'Île-de-France, adjointe au maire des Mureaux. Elle évoque notamment les élections législatives à venir, exprimant le souhait que la gauche soit rassemblée dès le premier tour, extrait dans votre édition. Cet appel du collectif Handicap après la réélection d'Emmanuel Macron à la tête de la République française, il souligne que le soutien du Front républicain dont il a bénéficié ne vaut pas quitus et demande que le futur gouvernement comprenne un ministère de l'autonomie et des solidarités de plein exercice et que chacun des ministres ait en charge les questions liées au handicap au sein de leur portefeuille. Entretien avec le coordinateur du collectif Handicap, Stéphane Lenoir.
C'est vrai qu'à l'issue de cette élection présidentielle, donc nous, on prend acte que Emmanuel Macron accède aux fonctions de la présidence de la République. D'ailleurs, en premier lieu, c'est vrai qu'on regrette que le sujet du handicap n'ait pas émergé plus que ça au cours de la campagne. Et aujourd'hui, va venir assez rapidement la question de l'architecture du nouveau gouvernement. Et le collectif Handicap souhaite qu'il y ait à terme un ministère de l'autonomie et des solidarités pour travailler sérieusement tout au long du quinquennat la question de la 5e branche autonomie qui doit concerner à la fois les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Et vous souhaitez que chaque ministre ait en charge les questions liées au handicap au sein de leur portefeuille ?
Alors effectivement, nous souhaitons que la question du handicap soit portée dans chacun des ministères, puisqu'on considère que c'est une question transversale. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est que effectivement, il y ait la compétence handicap au sein de chaque ministère, et même l'idéal, ce serait au sein de chaque cabinet des ministères, en parallèle de l'animation des hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, qui lui est animé par le secrétariat général du comité interministériel du handicap. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir à la fois un ministère de plein exercice qui va travailler sur la question de l'autonomie, et en même temps avoir au sein du gouvernement, dans chacun des ministères, des membres de ce gouvernement qui s'occupent spécifiquement de la question du handicap dans chacun des portefeuilles. Voilà, ça nous paraît extrêmement important.
Emmanuel Macron, qui à la toute fin de la campagne s'est déclaré favorable à la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, c'était pendant le débat de l'entre-deux-tours. Vous demandez aujourd'hui des précisions sur ce sujet.
Alors effectivement, après, si on refait un tout petit peu l'histoire, après 2 ans de bataille à l'Assemblée nationale où la majorité gouvernemental s'est opposé à la déconjugalisation de l'AAH. On accueille avec plaisir le changement de posture du président de la République, et donc on espère qu'à terme, pendant le quinquennat, enfin, il puisse mettre en œuvre l'indépendance financière au sein des couples pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Alors donc il a fait cette annonce à plusieurs titres, mais il nous manque encore les modalités de cette déconjugalisation. Donc on va voir là au cours des prochains mois comment il souhaite la mettre en œuvre. Là où il nous manque des précisions, c'est est-ce qu'il veut déconjugaliser avec les termes de la loi qui existent aujourd'hui, ou est-ce qu'il a en tête par exemple un changement au travers d'un revenu universel d'activité, parce que c'est aussi quelque chose qui revient de temps en temps. À vrai dire, on ne connaît pas les modalités de cette déconjugalisation de l'AAH. Et donc on attend pour savoir de quelle manière ils souhaitent opérer.
Vous aviez interpellé les différents candidats à l'élection présidentielle. Certains vous ont répondu, d'autres non, et des porte-parole du candidat Emmanuel Macron vous avez répondu. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce qui était apparu d'intéressant dans leur réponse?
Effectivement, lorsqu'on a organisé le grand oral pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle, nous, on a eu deux porte-parole du candidat Emmanuel Macron, puisqu'il était par ailleurs occupé, et ce qu'on comprenait aisément. Hein. Et lorsqu'on a interrogé les porte-parole, à vrai dire, on avait eu assez peu de réponses. Hein. On avait eu plutôt un bilan du dernier quinquennat, mais on n'avait pas de réponse sur le financement de la cinquième branche autonomie. À ce stade-là, nous n'avions d'ailleurs toujours pas de réponse quant à la déconjugalisation de l'AAH. Nous avions quelques éléments concernant l'accessibilité, mais ça reste extrêmement mince. Hein, et encore aujourd'hui, le président de la République qui s'est engagé sur des fonds territoriaux d'accessibilité, on n'en mesure pas le financement, par exemple. On ne sait pas comment il va pouvoir financer et quelle va être l'enveloppe destinée à rendre enfin la France complètement accessible. Donc il y a encore beaucoup de zones d'ombre en fait sur un grand nombre de questions et d'enjeux liés au handicap. On espère que tout ça se sera précisé avec la constitution notamment du nouveau gouvernement.
Et que ce soit l'un des enjeux également des prochaines élections législatives.
Tout à fait. Maintenant, dans chaque circonscription, on espère que la question du handicap sera un enjeu majeur, d'autant que, par exemple, si on prend la question de l'autonomie, c'est des questions qui sont proprement liées à chacun des territoires. Donc on espère véritablement que les candidats à la députation s'empare et s'approprie ces sujets.
Le coordinateur du collectif Handicap, Stéphane Lenoir. C'est arrivé en Cisjordanie occupée. Un Palestinien a été blessé par balle par les forces israéliennes. Il a succombé à ses blessures. Le jeune homme âgé de 20 ans a été touché à la tête à l'aube dans le camp de réfugiés d'Aqabat Jaber, près de la ville palestinienne de Jéricho. Ce drame en mer Méditerranée, au moins 17 migrants sont morts dans le naufrage de 4 embarcations devant les côtes du centre-est de la Tunisie. 97 personnes ont pu être secourus. Les bateaux des embarcations de fortune étaient partis des côtes proches de Sfax dans la nuit de vendredi à samedi dernier. La majorité de ces personnes venaient notamment de Côte d'Ivoire, de Somalie, du Mali ou du Nigeria. Une partie de la classe politique tunisienne dénonce la mainmise de Kais Saied sur l'autorité électorale. Le chef de l'État tunisien a promulgué un décret présidentiel au terme duquel il s'arroge la prérogative de choisir et nommer les 7 membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Une décision à 3 mois d'un référendum prévu le 25 juillet et d'un scrutin législatif attendu au mois de décembre, un scrutin que cette instance doit superviser. Son actuel président estime que l'indépendance de cette instance a ainsi été enterrée. Entretien avec Nabil Bafoun.
C'est une décision choquante et on a énormément de remarques sur ce décret-loi 22 qui a changé intégralement la composition et même la compétence de l'ISI. J'ai deux remarques. La première, c'est une remarque de forme. Vous voyez bien que la Constitution tunisienne, dans son article 70, exclut du domaine du décret-loi le domaine électoral. C'est-à-dire, on ne peut pas toucher au domaine électoral par le technique de décret-loi. Même chose faite par le décret présidentiel 117, son article 4 met le domaine électoral en exception de technicité de décret-loi, ainsi que toutes les normes internationales et les bonnes pratiques n'accepteront jamais que la loi électorale ou bien l'organe qui supervise les élections soient modifiées ou touchées par des décrets-lois. Ça sur le plan de forme, mais sur le fond de ce décret-loi, on voit bien qu'on a déjà par ce décret-loi enterré définitivement l'indépendance de l'ISI. Vous savez que qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Monsieur le Président qui nomme 7 membres qui composent le Conseil. Et c'est lui qui nomme le président de l'ISI, et c'est à lui seul de révoquer n'importe quel membre et le président aussi. Donc, ça, ce sont des remarques normaux, mais sachant que les normes internationales, les bonnes pratiques, la commission de Venise, tous donc sont d'accord que le fait de changer par décret-loi la composition d'une instance qui supervise les élections ou bien de changer la loi électorale, c'est hors norme, c'est normalement interdit. Et ils disent encore qu'on ne peut jamais toucher à ces lois, que ce soit de l'organe qui supervise les élections ou bien la loi électorale, pendant l'année où on va organiser des élections. Et en Tunisie, dans 2 mois, on a un référendum. Et en mois de décembre, on a des élections législatives anticipées. La chose la plus claire, qu'on est en train de dériver et en train de quitter le navire de la démocratie en Tunisie. Sincèrement, je l'ai dit, je le redis, on est en train de voir une dictature qui naît, une dictature qui s'agrandit au fil des jours.
Vous nous dites que cela aura un impact sur la transparence des scrutins à venir, selon vous ?
Mais bien sûr. Vous savez que pour bien gérer les scrutins et pour bien gérer les élections, c'est nécessaire que l'administration qui gère et qui supervise cette opération soit neutre et indépendante. Aujourd'hui, cette neutralité et cette indépendance, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que c'est seul au président qui va nommer et qui va révoquer, sachant que le président, lui aussi, est un candidat potentiel pour les prochaines élections présidentielles. Donc, c'est hors norme. Et sincèrement, on a beaucoup de doutes sur la transparence et la neutralité des prochaines élections.
Alors, des réactions se sont faites entendre en Tunisie de la part de plusieurs partis qui ont critiqué cette décision. Attendez-vous également des réactions internationales suite à cette décision du chef de l'État tunisien ?
Je crois que oui, malgré que j'aime bien noter qu'avant la publication de ce décret-loi, j'ai proposé au président en disant « Monsieur le Président, on ne peut pas changer la loi électorale ni la composition de l'ISI en Tunisie par des décrets-lois. C'est hors norme, c'est inacceptable. Ça, c'est le principe. Mais si vous allez le faire, je vous en supplie, Monsieur le Président, nous sommes 7. Touchez seulement au président de l'ISI. Révoquez seulement le président de l'ISI et laisse les 6 autres membres choisir entre eux un président qui dirigera les prochaines échéances. Seulement pour garder le minimum de l'indépendance de cette instance. Encore plus, j'étais clair, avant la publication de ce décret-loi, j'ai bien dit au Monsieur le Président, par des publications médiatiques, Monsieur le Président, le principe, les règles internationales, les normes, les bonnes pratiques interdit que la loi électorale soit changée ou amendée ou touchée par des décrets-lois. Ça, c'est le principe. Mais si vous allez le faire, je vous en supplie de faire participer le maximum possible des intervenants, pour que ce loi électorale soit au moins acceptée par les autres. Mais voilà, on voit toujours les passages en force, et dommage pour ce qui se passe en Tunisie maintenant, vraiment dommage, parce qu'on est en train de quitter de façon claire et nette la navire de la démocratie.
Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie, Nabil Bafoun. Un attentat suicide au Pakistan. 4 personnes, dont 3 Chinois, ont été tuées. Une attaque perpétrée par une femme kamikaze à Karachi, dans le sud du pays. 2 soldats irakiens, dont un officier, ont été tués par un kamikaze. Un homme qui s'est fait exploser dans une zone au nord de Bagdad, là où le groupe État islamique dispose de cellules. La Russie souligne le danger d'une 3e guerre mondiale. Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer, a déclaré Sergueï Lavrov, cité par l'agence Interfax, le ministre russe des Affaires étrangères qui a accusé Kiev de faire semblant de négocier. Des propos alors que les États-Unis réunissent ce mardi en Allemagne une quarantaine de pays alliés pour armer davantage l'Ukraine face à l'envahisseur russe. L'invité de Pluriel à 19h est Dinaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régionale d'Île-de-France, adjointe au maire des Mureaux. Elle évoque notamment les élections législatives à venir, exprimant le souhait que la gauche soit rassemblée dès le premier tour, Dinaba Diop.
Le Parti Socialiste a voté une résolution il y a une semaine justement pour dire que nous n'y arriverons pas seuls, et qui que ce soit. Et c'est pas une question de ni LFI, ni du PC, ni de Génération, ni d'Europe Écologie Les Verts. Si nous ne voulons pas que la gauche disparaisse de notre pays, aujourd'hui, il faut discuter. Comme nous le faisons lorsque nous faisons des alliances sur les départementales, sur les municipales et les régionales, on dirige ensemble le quotidien des Françaises et des Français. Eh bien, au niveau national, on doit le faire pour les législatives.
Donc il faudra un candidat de gauche,
oui,
au premier tour,
oui,
dans les 577 circonscriptions.
C'est ce que nous espérons, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons en capacité de présenter dans chaque circonscription, je l'appelle de mes voeux, un seul candidat de gauche si nous voulons espérer avoir une représentation suffisante à l'Assemblée nationale.
La France insoumise souhaite être majoritaire dans ce rassemblement de gauche. Ça, vous pouvez l'accepter ?
Je crois que les résultats montrent qu'effectivement, il y a une dynamique du côté de la France insoumise. Mais la France insoumise ne doit pas oublier aussi que nous sommes la force principale dans les territoires. Et on doit tenir compte de ça. Parce que les gens, quand ils votent aux législatives, ils votent pour une personnalité qu'ils connaissent, quelqu'un de proximité. Donc je crois qu'on a besoin de toutes les forces.
Vous croyez au troisième tour promis par Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de ces élections législatives ? Il peut y avoir une cohabitation à gauche ?
Moi, je crois que c'est compliqué lorsqu'on est juste après les élections présidentielles. Ça, c'est jamais vu. À chaque fois qu'on a eu une cohabitation, elle est arrivée pendant le septennat et elle est arrivée après un bilan, etc. Mais en tout cas, on peut faire le pari que on peut envoyer un maximum de députés à gauche. Mais il faut pas oublier que si on fait le total gauche, le total extrême droite et le total Emmanuel Macron, la gauche n'est pas majoritaire. Donc faisons le maximum pour être présent et pour lutter pour les plus fragiles et les protéger de ce quinquennat qui va être très dur.
Dinaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régionale d'Île-de-France, invitée de Pluriel à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un grand merci pour votre fidélité. Vous pouvez écouter l'ensemble de vos programmes sur votre site internet Radio-Orient.com, Radio-Orient qui diffuse durant le mois du Ramadan les prières Tarawih à partir de minuit. Très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio-Orient.